politique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Iran. Nous sommes à Grenoble pour les journées internationales organisées par Sciences Po Grenoble. Quelle place pour l'Iran dans le concert régional et global après les accords de 2015? Dans quelle mesure l'élection de Donald Trump aux États-Unis peut-elle rebattre les cartes, générer des alliances nouvelles, voire inattendues, et influer sur la place de l'Iran dans son environnement? Nos invités, Mohamad Reza Jalili, professeur émérite de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, historien et politologue, auteur de nombreux ouvrages dont l'Iran en 100 questions, paru aux éditions Talendier et coécrit avec Thierry Kellner. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance, aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Marcoux, directeur de relations internationales à Sciences Po Grenoble et du master Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
L'accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015 constitue un élément important du bilan de Barack Obama. On a compris qu'une remise en question de cet accord par Donald Trump, comme annoncé durant la campagne, ne peut que rencontrer bon nombre d'obstacles liés à la réalité d'une entente dont les États-Unis ne sont pas seuls signataires. Tout juste, Donald Trump pourra-t-il sans doute exiger ou être plus exigeant sur son exécution ? Est-ce à dire que la politique américaine à venir vis-à-vis de l'Iran s'inscrira dans une certaine continuité, professeur Jalili?
Oui, je pense qu'il n'y aura pas de rupture, en tout cas rapide et totale. Ce n'est pas dans l'intérêt des Iraniens, bien sûr, mais ce n'est pas non plus dans l'intérêt des États-Unis de se mettre sur le dos les membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Ce n'est pas peu, et de toute façon, c'est très difficile de se dégager de ce type d'accord qui a été enregistré auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci étant, le gouvernement américain, le prochain gouvernement américain, sans mettre en cause l'accord, peut mettre en place un certain nombre d'obstacles qui pourraient empêcher le déroulement de ces accords sur le plan économique et sur le plan aussi bancaire et financier. Donc ça peut exister, mais probablement il ne fera pas cela parce que M. Trump est un businessman, et comme le disait un journaliste iranien dans la presse iranienne il y a quelques jours, c'est un homme, un marchand, un bazari, comme beaucoup de bazaris qui sont d'ailleurs très liés au pouvoir religieux en Iran. Entre bazari, on peut s'entendre. Donc il y a une possibilité d'entente.
Bernard Ourcade.
Oui, je crois que ce que dit Mohamad Reza Jalili est tout à fait vrai. Il y a une réalité économique qui se met en place depuis l'accord du 14 juillet 2015. Et le fait que, on l'a vu ce matin et aujourd'hui dans ces journées internationales, la partie économique est très importante. Et ça représente une inertie, ça représente du temps, ça s'inscrit dans la durée. Et aujourd'hui, les sanctions ne sont pas levées, elles sont simplement suspendues, comme quelqu'un l'a précisé. Et cette suspension, elle aurait existé même si Hillary Clinton avait été élue. Avec Trump, il est possible que ce soit, un, maintenu, mais que ce soit aussi peut-être accéléré, parce que le business, c'est le business. Comme vient de dire Mme Reza Jalili, cette logique économique existe. En Iran, elle est très forte. Aux États-Unis aussi, où l'économie n'est pas forcément très florissante. Et donc, la logique économique risque de l'emporter sur les questions politiques. D'autant plus que le futur président Trump signalait que la question de Daesh, la question du djihadisme, du terrorisme islamique était prioritaire. Et de ce point de vue-là, il y a une convergence objective entre l'Iran et les États-Unis.
Nous en parlerons bien évidemment. Jean-Marc, un commentaire sur cette question à propos de la continuité ou non de la politique américaine dans la région?
Oui, moi ce qui me frappe, c'est qu'après l'élection de Donald Trump, le choc a été tel, en quelque sorte, que tout le monde essaye, en quelque sorte, de positiver. On essaie de dire bah, finalement c'est pas aussi dramatique et il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de dire qu'on doit pouvoir s'entendre. Alors il y a effectivement quelque chose qui permet de dire qu'on doit pouvoir s'entendre, c'est qu'en politique étrangère, on le sait, les changements sont rarement violents et donc qu'on doit tenir compte de l'héritage et que la marge de manœuvre d'un gouvernement, même quand il entend provoquer un changement violent, la marge de manœuvre est finalement réduite. Mais je crois quand même que sur le fond, les orientations politiques de Donald Trump en matière, que ce soit en matière diplomatique ou que ce soit en matière de politique économique, risquent quand même de se faire sentir à terme au Moyen-Orient et en particulier dans les relations entre les États-Unis et l'Iran.
Alors je l'ai dit, nous sommes à Sciences Po Grenoble où 4 étudiants ont accepté de participer à l'émission. Yuna Escandari, Ophélie Julien-Laferrière, Ondine de Gaulle et Gabin Bertrand. Ophélie Julien-Laferrière, la première question peut-être venant de vous.
Oui, Jean-Marc, vous venez parler des possibles réajustements en politique étrangère. Que pensez-vous de la convergence des positions du Congrès américain, d'Israël et de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du nucléaire américain? Donc, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël est-il envisageable selon vous, puisque leur ennemi désigné étant l'Iran ?
Je pense bien sûr qu'il y a des convergences d'intérêts qui se manifestent à l'heure actuelle, mais en même temps, depuis longtemps, on parle d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, et de fait, des convergences sont exprimées souvent sur un certain nombre de dossiers. Après, finalement, l'aboutissement de cette convergence, je reste quand même plus prudent et je demande à voir.
Professeur Djalili, vous souhaitez réagir?
Oui, cette convergence existe et je ne pense pas que cela va disparaître du jour au lendemain. Mais néanmoins, je ne pense pas non plus que les Américains, le nouveau gouvernement américain, auraient intérêt de s'appuyer trop sur cette convergence. Il devrait quand même garder une certaine marge de manœuvre pour pouvoir aussi, si nécessaire, de trouver l'angle avec l'Iran. Je sais bien que ce n'est pas le rétablissement des relations diplomatiques n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais je crois qu'il y a eu quand même dans ces négociations sur le nucléaire la disparition du mur de silence qui existait entre les États-Unis et l'Iran, et qu'il y a une possibilité de communication qui peut être exploitée par la nouvelle équipe pour tout de même rééquilibrer la politique américaine au Moyen-Orient afin de trouver des solutions plus ou moins acceptables par tout le monde au conflit du Moyen-Orient qui continue, qui ne se limite pas à la Syrie, à l'Irak, mais au Yémen, à Bahreïn et peut-être ailleurs aussi. Donc, dans la moyenne durée, je pense qu'il y a des possibilités de reprise d'un certain dialogue entre l'Iran et les États-Unis, ce qui nécessite aussi une certaine distanciation des États-Unis par rapport aux positions saoudiennes et israéliennes.
Alors, restons sur la Syrie, si vous le voulez bien, théâtre principal d'une guerre régionale qui oppose la théocratie chiite iranienne à la théocratie sunnite, l'Arabie saoudite. On évoque donc une alliance possible entre les États-Unis, Bachar al-Assad, l'Iran et la Russie. Les États-Unis peuvent-ils devenir un allié de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme, Bernard Ourcade ?
Objectivement, Daesh, l'État islamique, est l'ennemi très direct de l'Iran, qui ne souhaite pas être entouré, encerclé par des forces soutenues par les forces pro-saoudiennes, directement ou indirectement, même si Daesh est un ennemi de la monarchie saoudienne. Donc pour l'Iran, c'est essentiel. Pour les États-Unis, à l'époque d'Obama, les États-Unis se retiraient du Moyen-Orient. Ils sont revenus par la vasistas, je dirais, non pas par la fenêtre. Et donc, avec le gouvernement aujourd'hui de Trump, dans quelques semaines, dans quelques mois, le retrait du Moyen-Orient va peut-être être effectif. Et donc, les États-Unis ne seront peut-être pas le principal acteur. Si, concrètement, Donald Trump fait la politique qu'Obama avait souhaité, c'est de se retirer du Moyen-Orient, de l'Afghanistan et de l'Irak, il va donc laisser le champ libre aux acteurs régionaux importants que sont l'Arabie Saoudite et Israël, plus la Turquie, qui rentre dans le jeu. Et peut-être que l'arrivée de la Turquie comme un acteur majeur maintenant du conflit syrien est peut-être la conséquence anticipée d'un retrait réel des Américains, laissant une plus grande liberté aux acteurs régionaux et à la Russie. Et la question est de savoir, est-ce que, finalement, en se retirant du Moyen-Orient, effectivement, les Américains ne seront pas un acteur majeur, ce sera la Russie qui sera la grande puissance régionale. Est-ce que c'est acceptable? Je n'en sais rien.
Alors, je rebondis là aussi et je me tourne vers vous, Mohamed Reza Djalili. Est-ce que, finalement, un retrait effectif des États-Unis du Moyen-Orient serait pour l'Iran une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Officiellement, ce serait une bonne nouvelle parce que la République islamique mène une politique officiellement encore d'anti-américanisme virulent. Chaque année, chaque manifestation politique ou religieuse en Iran organisée par le pouvoir se finit toujours par mort aux États-Unis, etc. Donc, si les États-Unis se retirent de la région, officiellement, les Iraniens seront contents, mais officiellement, parce que ce n'est pas sûr que le retrait des Américains, dont je ne suis pas totalement certain d'ailleurs, qu'il y aura un retrait massif des États-Unis du Moyen-Orient, mais de toute façon, ce n'est pas tout à fait dans l'intérêt de l'Iran que les Américains se retirent et soient remplacés par les Russes. Parce que les Iraniens ont aussi un contentieux véritable avec la Russie, un contentieux historique qui remonte au début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sorte de connivence entre Moscou et Téhéran. Je ne pense pas qu'on puisse parler même d'alliance à l'heure actuelle entre les deux pays, mais c'est tout à fait conjoncturel. Je ne pense pas qu'il y a une transformation fondamentale de la vision que les Iraniens ont de la Russie.
Connivence donc sur des intérêts communs, on l'a bien compris, et peut-être pas au-delà. Gabin Bertrand.
Oui, venons-en aux relations turco-iraniennes. Jean-Marc, pensez-vous que nous puissions parler aujourd'hui d'une concurrence pour occuper une place de puissance régionale dans la région, ou qu'au contraire, un rapprochement stratégique s'opère entre Téhéran et Ankara? Et plus globalement, quel est le rôle de la Turquie d'Erdogan dans le processus de normalisation du rôle de l'Iran dans les relations internationales?
Alors, je pense, vous savez, quand on parle des relations turco-iraniennes, on dit souvent « ni ami ni ennemi ». Donc il y a souvent des raisons qui laissent espérer une convergence, et puis on s'aperçoit que malgré tout, sur le plan régional notamment, il y a des antagonismes qui sont excessivement anciens et qui souvent neutralisent des périodes d'opportunités, des périodes de convergence. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas seulement, il ne faut pas oublier quand même que sur le fond, même si les relations se sont stabilisées, et même si elles se sont stabilisées depuis que la Turquie a normalisé ses relations avec la Russie ces derniers mois, il ne faut pas oublier que sur la crise syrienne, sur le fond, il y a des positions qui sont antagoniques. Et par-dessus le marché, ce qui est plus inquiétant, c'est que même sur des terrains où il pourrait y avoir une certaine convergence, il y a parfois une concurrence. Je pense par exemple au soutien des Iraniens et au soutien des Turcs au régime d'Erbil, c'est-à-dire aux Kurdes du Nord-Irak. Et là, on voit bien que la Turquie et l'Iran sont finalement en concurrence. Donc, je crois que la Syrie continue malgré tout à être potentiellement un terrain conflictuel, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dans ce conflit le positionnement de l'Arabie Saoudite, et qu'à l'heure actuelle, quand même depuis maintenant 2015, il y a eu une véritable offensive de la Turquie en direction de l'Arabie Saoudite, et que bien évidemment cela ne joue pas en faveur d'une amélioration des relations entre la Turquie et l'Iran.
Mohamed Reza Jalili.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, au-delà de la Syrie, sur la question de Mossoul aussi, oui. Il y a des divergences entre Iraniens et Turcs. Ce sont des divergences de politique étrangère, de rôle régional des deux pays, ou peut-être même le rôle international des deux pays. Mais fondamentalement, il faut quand même avoir à l'esprit que l'Iran et la Turquie, depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais eu un véritable conflit ouvert. Ils ont passé par des zones de turbulence au début de la révolution islamique en Iran, etc. Mais aujourd'hui, ce sont des partenaires qui ne mettent pas en cause les frontières des deux pays, qui ont des relations économiques extrêmement importantes, à la fois pour la Turquie et pour l'Iran. Et aussi, il y a une certaine passé historique qui rapproche ces deux pays. Et ce sont deux vieux pays, deux vieux empires et qui qui se connaissent et qui savent s'apprécier, et tout en gardant une certaine distance quand il faut. Je suis très souvent étonné quand je vois dans la presse internationale comparer l'Iran et l'Arabie Saoudite. Personnellement, je vois rien de semblable en ces deux pays. Les trajectoires historiques des deux pays sont totalement différentes. Alors qu'avec la Turquie, il y a ce passé qui est là, qui est vécu, que les Turcs connaissent bien, que les Iraniens aussi, et il y a des échanges humains aussi. Vous savez, par exemple, les touristes iraniens, où vont-ils? Ils vont en Turquie. Donc, il y a tout ça. Donc, il y aura des difficultés, mais je ne pense pas qu'on soit à des moments difficiles dans la relation entre Ankara et Téhéran.
Bernard Hourcal.
Oui, je crois que peut-être cette évolution de l'arrivée de la Turquie dans le conflit syrien, c'est peut-être pour prendre le rôle qu'avait l'Arabie Saoudite jusqu'à maintenant, qui n'est pas capable de gérer le conflit syrien puisqu'elle ne contrôle plus ses Daesh ou l'Al-Qaïda, etc., sur lesquels ils avaient une influence. Et peut-être pour l'Iran, finalement, le fait que la Turquie, État central, jacobin, je dirais, centralisé, fort, prenne la place de l'Arabie Saoudite dans les conflits régionaux comme puissance émergente, sachant que l'Arabie Saoudite a beaucoup de problèmes internes, de dynastie, de succession, d'évolution sociale, c'est assez particulier. Et donc, pour l'Iran, c'est peut-être rassurant que son vieux partenaire turc soit là, avec lequel il y a des hauts et des bas, mais qui finalement est un État crédible, avec lequel on peut avoir des relations normales, alors que l'Arabie Saoudite, jouant uniquement sur la fibre islamique, wahhabite, etc., ou jouant sunnite contre chiite, ce genre de choses, l'Iran, État jacobin centralisé, n'aime pas cela. Et donc, finalement, l'arrivée de la Turquie est peut-être un élément stabilisateur dans la région.
Alors, peut-être terminer cette première partie d'émission, Mohamed Reza Jalili, vous évoquez l'absence de conflit, en tout cas de conflit direct. Et c'est vrai qu'une donnée constante jusqu'à présent, peut-être, c'est l'absence de conflit direct, mais des conflits par procuration. Il y en a un certain nombre. On parlera du Yémen, bien évidemment. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur le Liban, le règlement de la question de la présidence qui était en attente depuis de nombreux mois. A été rendu possible par une entente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'hirondelle pourrait faire le printemps, Mohamed Reza Jalili?
C'est peut-être pas la saison pour parler de printemps maintenant. Il faut attendre que le printemps arrive, donc il faut un peu de temps. Je pense quand même que c'est un événement intéressant et important, le fait que quand même ces deux pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, wahhabites, chiites, etc., ont quand même trouvé un moyen de s'entendre sur une question très épineuse. La question du Liban n'a jamais été une question facile. Et la nomination d'un président après tant de mois d'attente à Beyrouth est à souligner parce qu'il y a eu une connivence de nouveau ici entre les deux grands voisins, les deux riverains du golfe Persique, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le Premier ministre est visiblement un choix saoudien. Le président est soutenu par l'Iran, et donc à la sortie, le Liban a maintenant un président, ce qui n'est pas non plus très mauvais pour l'État libanais.
Bernard Hourcade et Jean-Marc Roux, commentaire rapide.
Effectivement, l'hirondelle n'est pas encore là, mais enfin, c'est un élément important sur l'espoir qu'il y ait effectivement une espèce de Yalta, de partage du pouvoir entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui pour l'instant se font la guerre par pays interposés, mais qui peut-être se rendent compte que cette guerre n'a pas d'issue. Il faut bien trouver un accord. Et en commençant par le Liban, qui est le terrain de bataille de tout le monde depuis des décennies, c'est peut-être le début du commencement de l'esquisse d'un projet, de quelque chose qui pourrait se réaliser.
Jean-Marc.
Oui, et puis c'est, je dirais, rassurant dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte de conflit extrêmement grave, et le fait que, finalement, on sorte d'une instabilité ou d'une incertitude politique au Liban, qui est voisin, effectivement, de la Syrie, ne peut être qu'une bonne nouvelle pour la stabilité dans la région.
Géopolitique, regard sur la géopolitique de l'Iran. Nous retrouvons nos invités, Mohamed Reza Jalili, Jean-Marc Roux et Bernard Hourcade, dans quelques instants. À tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Quelle place pour l'Iran dans le concert régional et global après l'accord de 2015? Nous retrouvons nos invités, Mohamad Reza Jalili, professeur émérite de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, historien et politologue, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'Iran en 100 questions, aux éditions Talendier et coécrit avec Thierry Kellner. Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance aux éditions Armand Collin, et Jean Marcoux, directeur des relations internationales à Sciences Po Grenoble et du Master Méditerranée Moyen-Orient, Sciences Po Grenoble, où nous nous trouvons dans le cadre des journées internationales qui avaient pour thème l'Iran, avec quatre étudiants de Sciences Po, Yuna Eskandari, Ophélie Julien-Laferrière, Ondine de Gaulle et Gabin Bertrand. La question prochaine pour Ondine de Gaulle.
Nous avons parlé de la Turquie en première partie. L'autre grand voisin de l'Iran est l'Irak, qui a un certain nombre de points communs avec l'Iran. Est-ce que l'Iran est en mesure aujourd'hui de jouer un rôle dans la crise qui mine aujourd'hui l'Irak? Quels sont les objectifs de Téhéran en Irak? Est-ce qu'ils sont d'ordre purement militaire ou bien le régime iranien cherche à affirmer son rôle dans la région?
Qui souhaite répondre? Bernard Ourcade.
Je veux bien commencer en signalant que on accuse l'Iran aujourd'hui d'ingérence dans toute la région, avec le Liban, la création du Hezbollah, d'être au Yémen, soutenant les Houthis, d'être actif en Afghanistan, soutenant les Hazaras, soutenant les communautés chiites à droite à gauche, ce qui est vrai, parce que l'Iran, effectivement, a le sentiment d'être encerclé depuis longtemps, et l'Iran, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un empire, c'est une nation très nationaliste dans ses frontières, et concrètement, l'Iran moderne, depuis le XVIe siècle, n'a pas bougé de ses frontières. Il avait simplement autour de lui l'est de la Mésopotamie, l'est de Bagdad, la Transcaucasie, le Golfe Persique, la province de Hérat, qui faisait partie de l'Iran. Ces zones tampons sont toujours des zones tampons pour l'Iran aujourd'hui. Ce qui est important pour le régime politique iranien, c'est de survivre, de continuer à être en place. Autrement dit, pour l'Iran, l'Irak est essentiel. 8 ans de guerre, ça laisse des traces. Les élites iraniennes qui contrôlent le gouvernement d'aujourd'hui sont issues, ce sont les anciens combattants de la guerre Irak-Iran. Autrement dit, la sécurité, la stabilité de l'Irak est essentielle. Pour cela, évidemment, l'Iran a des zones d'influence. Les communautés chiites, c'est important. De pouvoir avoir le Hezbollah comme un moyen de pression sur la Syrie ou sur l'Irak, ça a été utile pendant la guerre Irak-Iran. Et d'avoir de l'influence en Afghanistan, ça permet de contrôler peut-être les talibans, etc. Autrement dit, l'Iran cherche à avoir une zone d'influence, des îlots, des points d'ancrage. Et l'Irak est évidemment le pays principal. Et pour cela que l'Iran, qui a joué une carte chiite très affirmée lors de la chute de Saddam Hussein, commence à revenir un peu en arrière et essaie de voir en priorité un Irak stabilisé où Kurdes, sunnites, chiites et surtout la bourgeoisie moyenne héritée du parti Baas qui faisait l'Irak des années 80 retrouve une stabilité. Et je crois qu'il faut insister sur l'aspect nationaliste et un peu conservateur finalement, nationaliste ancien de l'Iran, plutôt que sur sa partie impérialiste ou disons internationale.
Mohamad Reza Jalili.
Oui, bien sûr, Bagdad et l'Irak sont très importants pour les Iraniens à cause du chiisme, à cause de l'histoire aussi. Il faut savoir qu'à l'époque safavide, une partie de l'Irak faisait partie de l'Iran. Il y a aussi une relation particulière entre le clergé chiite iranien et le clergé chiite irakien, qui ne sont d'ailleurs pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, Sistani, qui est le grand ayatollah irakien, ne suit pas du tout les concepts du velayat-e-fari, etc., qui est en place en Iran et n'est pas pour la participation du clergé directement au pouvoir. Bon, les Iraniens ont trouvé une zone d'influence possible en Irak, un peu grâce aux Américains, bien sûr, et surtout après le départ des Américains, c'est-à-dire à partir de 2011. Et ils essaient d'étendre leur capacité d'influence dans ce pays, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. C'est gérer une relation avec l'Irak dans la situation où elle se trouve à tout point de vue. C'est un État en pleine situation de possible éclatement, etc. Donc, les Iraniens jouent un rôle, essaient de jouer un rôle fédérateur pour l'Irak parce qu'ils ne veulent pas que les frontières changent, etc. Ils sont pour le maintien d'une stabilité territoriale au Moyen-Orient. Mais il faut voir est-ce qu'ils sont capables. Ils participent, par exemple, à la lutte contre Daesh en Irak, mais pas en Syrie, mais de façon tout à fait indépendante. Ils ne se mêlent pas de la coalition internationale qui lutte aussi. Donc c'est assez quand même sensible et il faut voir à la sortie tout ce que cela donnera.
Jean-Marcoux.
Oui, à propos de l'Irak, on a souvent tendance, je pense, à s'omnubiler sur l'influence iranienne et la domination iranienne. Or, effectivement, comme le disait Mohamed Reza Jalili, il y a traditionnellement une certaine vision des relations religion et politique par le schisme irakien, et donc des différences de logique politique qui s'expriment dans le régime actuellement de Bagdad. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le régime de Bagdad a d'autres alliés simplement que l'Iran, en particulier la Russie, en particulier les États-Unis. Et on observe d'ailleurs ces dernières années même une sorte de concurrence entre la Russie et les États-Unis, justement, pour gagner les faveurs de Bagdad. Bon, il reste, à mon avis, que, effectivement, comme le disait Mohamed Reza Jalili, l'État irakien à l'heure actuelle est faible. On peut même se poser la question de savoir s'il existe un véritable État irakien, puisqu'il est fractionné à l'heure actuelle au moins en trois zones, la zone Daesh, la zone kurde irakienne et la zone effectivement tenue par le régime de Bagdad. Donc l'avenir de cet État, je dirais, est de ce point de vue-là préoccupant, mais pas tellement préoccupant à cause de la domination iranienne, mais à cause de la situation même sur le terrain, je pense.
Younes Kandari.
Pour revenir sur la question de la Palestine, on connaît les liens très forts qui unissent l'Iran à la défense de la cause palestinienne, aide qui s'est traduite sur le terrain par un soutien au Hamas, mais un soutien qui a été mis à mal depuis la guerre en Syrie, puisque le Hamas a fait le pari de parier sur la chute de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, le Hamas est dans une situation difficile. Où en est cette relation entre l'Iran et le Hamas? Est-ce que l'Iran va pardonner d'une certaine manière la position du Hamas sur la Syrie et notamment le fait qu'il ait déplacé son quartier général d'une certaine manière de Damas au Qatar? Où en est cette relation?
Mohamed Reza Jalili.
Ben écoutez, je pense que l'Iran va reprendre ses relations avec le Hamas. C'est dans son intérêt immédiat, pour point de vue État, parce que l'Iran veut être depuis des années, à mon avis à tort, hein, mais enfin ça c'est une autre question, à tort de nous quand même un acteur du problème arabo-israélien. Et l'Iran ne va pas abandonner cette possibilité qui lui donne une capacité d'influence aussi au bord de la Méditerranée orientale. Bien, est-ce que cela a coûté très cher à l'Iran? C'est une des raisons de son isolement sur la scène internationale. Est-ce que ça va continuer très longtemps? Ça dépend comment les choses vont évoluer en Iran même dans les mois et surtout dans les années à venir après les prochaines élections présidentielles.
Bernard Ourcade.
Oui, je suis d'accord avec vous parce qu'en Iran, il y a plusieurs forces politiques concurrentes. Certains sont nationalistes et veulent en priorité défendre le territoire national et que le régime islamique reste tel qu'il est. D'autres sont ouverts sur l'international et veulent tout très rapidement retrouver des relations privilégiées avec les États-Unis. D'autres, enfin, sont islamistes. Et pour eux, la question palestinienne est évidemment très symbolique. Et donc, il y a en Iran, dans le cœur du gouvernement iranien, des forces politiques fortes qui veulent garder justement la percée qu'ils ont faite sur la question palestinienne, qui était plus verbale que réelle. Avec la création du Hezbollah, qui a été une conclusion un peu parallèle de cette entrée de l'Iran dans la question palestinienne-israélienne. Donc, ils vont maintenir cela parce que c'est un moyen de pression que l'Iran, dont ils disposent, c'est un capital qu'ils ont acquis pendant 30 ans, capital très difficile à gérer, mais ils vont continuer de le faire en jouant contre l'OLP, en jouant le Hamas. Mais il faut bien voir aussi que l'Iran est un pays assez mineur dans la question palestinienne. Le Hamas, c'est d'abord le Qatar qui l'a soutenu et non pas l'Iran. L'Iran est un petit partenaire de la question israélo-palestinienne. Et on l'a bien vu maintenant avec le Hezbollah, qui est majoritairement un acteur de la politique libanaise, même si la guerre de 2006 avec Israël était une question très importante. L'Iran n'est pas un acteur majeur de la question palestinienne. C'est clair.
Jean-Marc Roux.
Une autre évolution, à mon avis, qui favorise le retour du Hamas vers l'Iran, c'est l'évolution de la Turquie sur le sujet, puisque ces dernières années, La Turquie s'était posée en premier adversaire d'Israël et la Turquie s'était posée en premier soutien de la cause palestinienne. D'ailleurs, ce qui n'avait cessé d'exaspérer les Iraniens, qui considéraient que la Turquie, pays de l'OTAN, qui par ailleurs acceptait le bouclier antimissile américain, poussait quand même le bouchon un peu loin à se présenter comme le premier allié des Palestiniens et le premier adversaire d'Israël. Donc la Turquie, vous le savez, a normalisé ses relations avec Israël. Bon, c'est vrai que Recep Tayyip Erdogan a reçu plusieurs fois le Hamas à Ankara pour amortir, si j'ose dire, le choc. Mais malgré tout, il y a une évolution quand même de fond. Et cette évolution de fond, elle devrait quand même restaurer les relations entre le Hamas et l'Iran.
Dans le brouillard, finalement, de la réalité moyenne-orientale, on a un besoin de comprendre. Mohamed Reza Jalili, qu'est-ce que l'on sait de la stratégie à long terme de l'Iran dans la région?
La doctrine de défense iranienne est théoriquement, je dis bien théoriquement, basée sur une doctrine non offensive, une doctrine défensive. Mais il faut reconnaître que, surtout depuis les printemps arabes, avec la situation en Syrie et en Irak, et un peu au Yémen, pas beaucoup d'ailleurs au Yémen, mais enfin, les Iraniens ont maintenant une certaine stratégie offensive aussi, une certaine stratégie offensive qu'ils justifient d'une certaine manière, tout en disant que ce n'est pas tout à fait offensif, parce que si on est attaqué, s'il y a une menace sur l'Iran, on ne sera pas enfermé sur nous-mêmes, on pourra à l'extérieur de l'Iran déjà résister à ces menaces régionales. Mais quand même, il y a une dimension offensive dans ces changements d'attitude de l'Iran par rapport à la situation régionale.
Un exemple peut-être, Mohamed Reza Jalili, qui illustrerait le mieux cette offensive iranienne dans la région?
C'est son soutien au Hezbollah et ses interventions directes maintenant aussi en Syrie, ce qui est une nouveauté. Et puis, en plus, il y a aussi de soutien que l'Iran a trouvé dans les communautés chiites afghanes, dans les groupes chiites pakistanais, etc., qui sont gérés et envoyés sur le terrain, qui participent à la guerre civile en Syrie. Donc, ça, c'est un aspect très clair. On peut retrouver cela aussi en partie, du moins, en Irak.
Alors, est-ce qu'on va vers plus de tensions? Est-ce qu'un conflit avec l'Arabie Saoudite serait possible, Bernard Orcal?
Oui, je crois que vous avez raison de dire que l'Iran est présent à l'extérieur, mais quand on fait le bilan des choses, dès qu'on voit un Iranien ici ou là, on dit attention, regardez l'impérialisme iranien, ils sont partout, ils sont offensifs, ils sont actifs partout. Mais que je sache, ce n'est pas l'Iran qui contrôle Raqqa, c'est pas l'Iran qui a pris Mossoul. Ce n'est pas l'Iran qui a fait le 11 septembre 2001, ce n'est pas l'Iran qui a soutenu des terroristes à Paris. Autrement dit, il faut voir la réalité. Et quand l'Iran aujourd'hui voit avec l'accord sur le nucléaire la possibilité de redevenir un État normal, et il fait le bilan, il sort de son bunker, et qu'est-ce qu'il constate? Que c'est l'Arabie Saoudite qui a établi un réseau et une présence importante. Si l'Iran est en Syrie, on dit que fait l'Iran ici? Mais que l'Arabie Saoudite soit à Raqqa, c'est normal. Donc, il faut revoir les choses. Et effectivement, les choses sont parties. Et maintenant, on est dans une phase de conflit, de guerre atroce en Syrie. Ne pas oublier la guerre de Syrie, c'est une des pires catastrophes humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas rien. Et en Irak, pareil. On a aujourd'hui une phase de conflit ouvert entre ces deux menaces qui étaient la menace iranienne depuis 1979, etc., et aujourd'hui une menace terroriste qui est largement dominée par l'Arabie Saoudite. Autrement dit, ce conflit, il est là. La question est de comment y répondre et le stabiliser. Mais fondamentalement, il faut voir maintenant comment les puissances régionales stables, je parle de Turquie, l'Égypte étant exclue, hélas, maintenant, et l'Iran, sous l'égide des États-Unis et de la Russie, pourront trouver une solution.
Jean-Marc Roux.
Il est intéressant de voir que malgré effectivement cette culture de la négociation et ces bonnes relations Iran-Turquie, la Turquie a perçu ces derniers temps cette stratégie offensive et on la voyait très nettement affleurer dans des journaux pro-gouvernementaux en Turquie. Et de ce point de vue-là, Je crois que la Turquie a fait une analyse assez favorable de l'élection de Donald Trump parce que elle pense que justement l'élection de Donald Trump peut freiner cette stratégie offensive ou en tout cas peut faire dissuasion en quelque sorte sur cette stratégie offensive. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, la Turquie s'était positionnée de manière appuyée en faveur de l'opération Tempête décisive de l'Arabie saoudite et qu'encore au début de l'année, le président turc a refusé de commenter, de réagir à l'exécution du cheikh Nimal Rim, refusé finalement de réagir à cette exécution, ce qui avait bien montré quand même le positionnement en faveur de l'Arabie saoudite très net de la Turquie. Même si, bien évidemment, cela se fait dans cette culture que soulignait Mohamed Reza Jalili, dans cette culture de neutralisation du conflit entre ces deux États voisins qui se connaissent bien.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a évoqué précédemment, c'est l'accord 2015, et ce sera peut-être finalement le dernier sujet sur lequel on va converser à propos de l'Iran. On a cru, Mohamed Reza Jalili, à la baguette magique, à l'immédiateté du retour de l'Iran sur la scène mondiale. La réalité, elle est évidemment tout autre, notamment du fait de la lenteur de la levée des sanctions et de la mainmise des États-Unis sur le contrôle des investissements étrangers. J'ai cette question. Est-ce que finalement, l'Iran et les États-Unis, chacun souhaite une normalisation de ses relations avec l'autre ?
Officiellement, l'Iran ne souhaite pas. Dès que l'accord a été signé, l'encre de l'accord n'était pas encore séchée, donc l'accord a été signé le 15 juillet, le 18 juillet, le guide de la révolution a fait son discours habituel que l'Iran ne change pas ses positions régionales et les États-Unis sont une puissance arrogante, donc la diabolisation des États-Unis continue, on a l'impression que Monsieur Khamenei est un adepte de la phrase célèbre de la Lampedusa, tout doit changer pour que rien ne change, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'au fond, c'est le seul élément de l'idéologie révolutionnaire qui se maintient encore en Iran, avec du mal, mais se maintient, c'est l'anti-américanisme. Et l'Iran, pour le moment, avec M. Khamenei au pouvoir, je ne vois pas l'abandon ce discours-là. Et ça, évidemment, les Américains en tiennent compte. On dit tout le temps pourquoi les Américains sont proches des Saoudiens et pas des Iraniens. Bah, les Saoudiens, au moins, ont cet avantage par rapport aux Américains que toutes les réunions politique en Arabie Saoudite, s'il y en a, ne se termine pas par une mort aux États-Unis, etc. Donc tout ça, il faut que le rituel révolutionnaire de l'Iran change un peu. Et d'ailleurs, vous savez, ça devrait changer parce que les gens aussi sont fatigués.
Bernard Hourcade, très rapidement.
Tout à fait d'accord. Et je crois que la conclusion, c'est qu'on voit émerger d'autres puissances régionales qui sont la Turquie et l'Arabie Saoudite. D'une certaine façon, et surtout la Chine, l'Orient, parce que l'Iran d'aujourd'hui, voyant que les Américains se retirent, il n'a pas envie de voir les Russes arriver, regarde vers la Chine et vers l'Inde, vers la Corée, qui sont actuellement les grands partenaires économiques de l'Iran après les sanctions, et donc on a peut-être une nouvelle géopolitique qui se met en place, go east, non pas go west, désormais en Iran.
Alors l'avenir de l'Iran davantage en Asie, ça peut faire l'objet d'une prochaine émission. Nous terminons cette édition sur une musique acoustique signée du joueur de hang franco-iranien, Jérémy Natag. Merci à nos invités pour cette édition réalisée en partenariat avec Sciences Po Grenoble. Mohamed Reza Jalili, professeur émérite de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, historien et politologue, auteur de nombreux ouvrages dont l'Iran sans question aux éditions Talendier, coécrit avec Thierry Kellner. Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance aux éditions Armand Collin. Et Jean Marcoux, directeur des relations internationales à Sciences Po Grenoble et du Master Méditerranée Moyen-Orient. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Manu Pochez à Grenoble, Nathalie Laporte à Paris. À très bientôt.